Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, avec Marion Bartoli, avec Sarah Pilkowski, avec Denis Charvet ce matin en grande forme. Les amis, ça débat même en micro, hein, je vous le dis. Évidemment, à un mois de Roland-Garros, on se rapproche du Tour de France, on se rapproche de la Coupe du Monde de foot. Évidemment, là, on est dans le Money Time un peu partout. Hein, donc, on va être un peu comme ça excité jusqu'à l'approche de ces grands événements que vous suivrez sur RMC, bien sûr. Vous pouvez écouter la première heure des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Évidemment, on a largement parlé de l'absence du forfait d'Alcaraz à Roland-Garros. Est-ce que les internationaux de France perdent un peu de leur intérêt? Ça a beaucoup fait réagir, ça a bien divisé les GG. Dans un instant, punchline de Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, après le nul de son équipe à Brest. 3 partout après avoir été mené 3-0, Paris a l'occasion d'avoir 6 points d'avance en cas de succès à Angers à 19h. Je me suis senti un peu trahi, dit-il à propos de ses titulaires hier. Pierre Sage prend-il un risque avec cette communication pour la fin de saison? Et puis et en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, gagnez votre séjour dans un des 400 campings Homer. Ce sont des campings 4 et 5 étoiles situés en France ou en Europe. Voyagez selon vos envies, de 2 nuits à 1 semaine, jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7 32 16. Sport au 7 32 16. Christophe, tu conseillerais aux auditeurs à ton retour de vacances de jouer avec toi?
Il n'y a pas Julien aujourd'hui.
Il n'y a pas Bennett, ouais.
Et Marion joue dans quelle équipe?
Je ne vais pas te le dire.
Le problème, je
peux pas te dire.
Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas gagné depuis très longtemps.
Mais ça veut dire quoi?
Juste le week-end où je suis parti.
Mais quel est le rapport avec Marion? Si tu joues contre Marion, tu vas perdre.
Marion a des statistiques incroyables.
Ah, ben oui, bien sûr.
Non, là, plus dernièrement, là. J'ai eu un down énorme dernièrement.
Attention, même Bennett s'est écroulé le week-end dernier.
Ouais.
Voilà.
En même temps, on pose une question sur Danse avec les Stars, donc c'est un peu compliqué aussi.
Ah ben oui, je sais quoi. Et à un moment donné, il faut être Danse avec les Stars, parce qu'on parlait de leur mano, nous, les amis. Il faut être connecté, je suis désolé. Okay. Mais d'abord, oh là, la mauvaise joueuse déjà. La légende. Mais d'abord sur le ring, Christophe vient de fêter. C'est 61 ans, bon anniversaire Christophe.
Merci les copains.
Bon anniversaire.
Les anniversaires Christophe.
Mais, merci Marion.
Mais ça a bien fêté, hein, ouais. J'ai vu des photos.
Mais bon, peu importe, non, on est en 2026, on parle plus d'âge.
RMC, le ring des GG.
Y'a pas de. T'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes.
Mbappé, la frappe roulée.
Tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge.
Frappe enroulée !
Oh, les coups ! Oh,
quel but de Yamal !
Pas d'âge, jamais d'âge. Au sport, il n'y a jamais d'âge, bien sûr.
C'est pas le Texas ! Va s'imposer ! C'est le vainqueur le plus jeune de l'histoire de la Flèche Wallonne. Victoire de Paul Sexas !
Moi, je retiens juste que j'ai gagné. Après, mon âge, ça m'intéresse.
Wembanyama, the fake, the reverse, and the fake. Of our basketball imagination.
Quand on commence tout petit, on se pose pas la question. Ah, je suis trop petit, est-ce que je peux faire ça? Ah, je suis trop grand, est-ce que je peux faire ça? Non, il y a pas d'âge dans le sport.
Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon face à Djokovic. Incroyable, insensé.
Vous avez entendu Mbappé, Sexa, c'est Moïse Kwame, la jeune pépite du tennis, nous dire qu'il fallait arrêter de parler d'âge. Paul Sexa s'est devenu cette semaine le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Flèche Wallonne à 19 ans, ne lui en parlez pas, il n'a pas voulu comme Mbappé donc. 19 ans, c'est aussi l'âge de Kimi Antonelli, le pilote Mercedes, le plus jeune leader de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 actuellement. Que dire de Wemby, drafté à 20 ans en NBA, de Léon Marchand, 4 fois champion olympique à 21 ans, ou d'Alcaraz, devenu il y a quelques mois, à 22 ans, le plus jeune joueur à remporter les 4 grand chelem. Les GG, je vous pose la question, faut-il arrêter de parler d'âge pour réussir dans le sport? Tiens, rapidement un tour de table, juste oui ou non, Christophe?
Oui, il faut arrêter de parler de ça.
Marion?
Oui.
Sarah.
Bah moi j'étais sur le nom. Hein.
Ouais, c'est ça. Denis.
Mmh. Oui.
Pour l'instant sur le compte X des grandes gueules du sport, vous avez voté depuis ce matin. Vous dites oui, il faut arrêter de parler d'âge à 75%. On vous attend au 32-16 sur WhatsApp au 06-12-424-424. Oula, Christophe Cessieux. Oula. Il faut arrêter de parler d'âge.
Oui. Surtout pour les vieux.
Surtout pour les très vieux.
Sarah, toi tu dis non.
Oui, je dis non.
Pourquoi ?
Ben en fait, je dis non parce qu'en fait, l'âge, quoi qu'il arrive, représente un repère. Un repère pour savoir si le sportif qu'on est en train de suivre est une pépite, a des records de précocité. Donc oui, l'âge est un repère, mais autant pour des records de précocité que pour des records de longévité ou au contraire pour des champions qui remportent leur premier titre sur le tard. Mais en revanche, le sportif lui-même, quand il a 19 ans, 18 ans et qu'il est en train de surperformer, bien sûr que lui on en a, mais rien à foutre, c'est pas son problème, il a la maturité pour gagner. Mais nous, observateurs, oui, l'âge m'intéresse parce que j'ai besoin de repères, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il se situe.
Les repères ont complètement explosé.
Mais oui, Sarah, oui non, mais non, il y a toujours eu des records de précocité. Pourquoi plus maintenant qu'hier? Non, il y a toujours eu.
En matière de cyclisme, on n'a jamais eu un coureur de 19 ans aussi performant que les Paul Sexas.
Mais très bien, notre sujet ne se focalise pas que sur le cyclisme. C'est l'exemple du cyclisme.
Mbappé, Yamal sont aussi des exemples de précocité incroyable.
Mais parce que le sport,
et dans quasiment tous les sports.
Donc on en parle, donc on a besoin. C'est intéressant de savoir qu'il a 19 ans et qu'il a des repères sportifs ou de performance qui sont comparables à ceux de Pogacar. On a besoin d'en parler. Mais le sportif lui-même, c'est pas un frein, c'est pas un plafond, c'est rien pour lui. Parce que lui, dans sa tête, il a une maturité, il est exceptionnel dans un monde de sportifs hors normes.
Il faut continuer d'en parler aussi, Sarah, parce qu'en fait, ça reste exceptionnel, ceux qui performent très jeune. Il ne faut pas dire que c'est la norme. Ce serait dangereux de dire que c'est la norme.
Exactement. Ils sont au-delà de ce qui est la norme des sportifs de haut niveau.
Là où je te rejoins un tout petit peu, c'est qu'en fait, on parle d'exception.
Oui.
C'est-à-dire que sur les quatre que tu as nommés, les Sexas, Obuemi, Marchand, c'est des champions hors normes, hors catégorie. Donc c'est vrai que c'est presque des phénomènes en fait.
Bah, donc ce sont des phénomènes.
Oui, non, mais je veux dire par là, c'est pour ça que je rejoins Sarah quelque part sur le nom. C'est-à-dire que si tu sors de ce cadre-là, de ces joueurs, de ces
sportifs-là. Mais comment on sait que c'est des phénomènes? Parce qu'en fait, ils battent des records de précocité.
Oui, bien sûr.
Parce que l'âge, dans notre repère temporel, il existe et on en parle.
Mais ils les battent et en plus ils performent à un tel niveau que tu
Mais parce que le risque, Denis, c'est que si on normalise le fait qu'il faut performer, que c'est normal de performer comme ça à 20 ans, on dira à 21 ans celui qui n'a pas gagné un grand chelem. Ah ben bah ok, bah,
non, c'est pas normal. Mais alors pour parler de mon sport, le rugby, aujourd'hui tu vois des joueurs aujourd'hui qui arrivent de 19-20 ans,
oui,
qui n'ont plus aucun problème de manque de confiance, dès qu'ils rentrent en équipe de France, ils sont performants. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années.
Mais toi, à son époque, par exemple.
Mais c'était très dur. On était moins encadré. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le sport est dans un confort. Tous les sportifs sont dans un confort absolu. Et je pense que ce confort-là les amène.
Tu veux dire quoi de parce qu'il les entoure. Parce qu'il y a plus de pression.
Si, il les entoure. Non, mais
je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le confort.
Non, mais quand je dis confort, je m'entends.
L'entraînement, la nutrition.
Ils sont assistés. Assister et tout est programmé.
Ils sont plus encadrés
ils ne s'accordent aucune sortie. Ils mangent.
Oui, mais si tu veux,
ils sont la nourriture. Mais quand tu écoutes le témoignage de Léon Marchand sur la vie qu'il a en ce moment, ces mecs-là sont des
vies de moines. Mais
sont des moines, quoi.
Oui,
ils ont des vies d'assets. Mais pour performer aujourd'hui, tu as besoin de ça parce que la concurrence, elle est tellement plus importante que oui, mais c'est normal que la performance elle augmente et que les analyses, l'accompagnement soient à chaque fois plus précis.
Oui, mais
c'est l'évolution normale.
Oui,
de
mais
tout.
Moi, par rapport à mon époque, ça t'apporte un supplément de d'âme et de confiance que à l'époque tu n'avais pas. Donc, il fallait t'étais un peu voué à toi-même en fait à l'époque. Moi, j'arrivais en équipe de France, j'étais voué à moi-même. C'est-à-dire qu'il fallait, je sais pas, t'avais pas un encadrement, un staff qui avait comme ça, qui t'accompagnait, qui te parlait. T'étais seul au monde et il fallait te performer.
Mais tu crois qu'aujourd'hui, t'aurais performé beaucoup plus jeune?
Mais bien sûr. Évidemment.
Moi, j'ai eu un long concilia bulle avec Cyril Guimard pendant des années. Cyril Guimard qui était quand même le maître en matière de science de cyclisme.
C'était le patron de l'équipe de Bernard Hinault, il a fait gagner Laurent Fignon également.
Bernard Hinault, Fignon et tous les autres. Et lorsqu'il a décidé de prendre Bernard Hinault sur le tour, celui-ci avait 23 ans. Il aurait pu le prendre avant, mais il voulait qu'il soit en état de remporter le tour pour sa première participation. Et il estimait à l'époque qu'un garçon de 23 ans était à la maturité physique pour remporter le tour. Aujourd'hui, Cyril continue de dire non, je pense qu'il ne faut pas que Paul Seixas fasse le Tour de France.
Même Nino,
c'est quand même parallèle, tu vois, sur l'âge. Mais je pense qu'aujourd'hui, Seixas, même s'il est devenu professionnel que l'année dernière, il a déjà 5 années de pré-professionnalisme. Des données étudiées, une préparation.
Tu arrives à une forme de professionnalisme beaucoup plus tôt.
Marion,
tu as raison.
En fait, moi, ce que je trouve très intéressant, pour reprendre un parallèle quand même avec le tennis, c'est qu'on a eu des périodes où on a eu, par exemple, Boris Becker ou Michael Chang qui gagnaient les tournois du Grand Chelem à 17 ans. Chez les filles, il y avait Martina Hingis, il y avait Monica Seles, il y avait Maria Sharapova qui ont gagné à 16 et 17 ans de manière respective. Et puis, on s'est dit, à un moment donné, il y avait quand même une petite musique qui montait en disant, oui, non, mais c'est plus possible de faire ça parce que là, le tennis est devenu trop physique et vous n'êtes pas en capacité à 16 ou 17 ans ou 18 ans d'avoir la force physique pour rivaliser avec des joueuses qui en ont 25, 26, 27, 28. Et on a vu qu'il y a d'autres exemples qui sont arrivés. Alors on a entendu Moïse Kwame, alors qu'il n'est pas pour l'instant en position de gagner un tournoi du Grand Chelem, mais qui est en train de gagner quand même un match en Master 1000 à seulement 16 ans. On a Mira Andreeva qui est née en 2007 à 16 ans. Elle était déjà en train d'être dans le top 50 à 17 ans. Elle faisait demi de Grand Chelem. Donc on voit très bien que ces jeunes-là, je pense, par leurs points de repère qui sont différents, par aussi la capacité aujourd'hui à avoir des idoles qui ont été eux aussi très performants, très jeunes, ne se mettent plus de barrières. Et en fait, en se mettant plus de barrières, ils arrivent effectivement à avoir une maturité à la fois physique, mais surtout psychologique, qui est colossale. Et je pense que pour Léon Marchand, cette vie effectivement qu'il a aussi envie de se donner, hein, je pense qu'il y a personne qui le force à faire ça. Oui. À mon avis, il doit prendre beaucoup d'exemples sur Michael Phelps. Quand on voit tous les speeches de motivation qu'a fait Michael Phelps, où il explique en conférence que pendant 5 ans avant d'obtenir son record à Beijing, il s'est donné 0 jour de repos, que tous les jours il était dans la piscine en train de nager pour être le plus grand nageur de tous les temps. Voilà, pour ces athlètes-là, ils s'identifient à ces champions-là, et donc pour eux, c'est la norme.
Mais dans ta carrière, est-ce que tu te serais vu commencer très tôt comme ça pour être performante avec des objectifs aussi hauts très tôt? Comment toi tu étais en fait, parce que Denis parlait sa carrière.
En fait, j'ai commencé très tôt, mais effectivement, la première fois que je joue Serena Williams, j'ai 18 ans. Je viens de battre Lindsay Davenport, qui est top 5. On était à Miami. Et quand je suis rentrée sur le court contre Serena Williams, qui était déjà numéro 1 mondial, j'ai fait un petit peu de petite fille. C'est-à-dire, je me disais, non, mais là, je joue contre Serena, c'est impossible de gagner. Et en fait, ayant grandi avec Maria Sharapova, qui, elle, effectivement, avait pas ces complexes-là et avait envie de tout, de battre tout le monde et de tout défoncer.
Elle était ta génération.
En la voyant faire ça, elle était de ma génération, on jouait les doubles ensemble chez les juniors, on s'entraînait ensemble et on s'était joué ensemble chez les juniors. En la voyant faire ça, je me suis dit, finalement, pourquoi je ne serais pas pareil? Pourquoi je serais un complexe d'infériorité? Pourquoi je serais pas.
L'émulation entre les jeunes aussi.
Mais il y a aussi le discours qu'il y avait à l'extérieur aussi, Marion. On te disait à 20 ans, t'es trop jeune. Tout le monde avait un discours quand même, moi.
Oui, mais exactement. Et j'ai commencé par ça, justement, dans mon explication. Tu vois, Denis.
Tu t'enfermes là-dedans.
Et en fait, tu t'enfermes là-dedans.
Exactement. Tu crois à ça, en fait.
Mais Marion,
tu te persuades que t'as pas le niveau à 20 ans.
Marion,
à 20 ans, à 20 ans, j'ai pété la santé. Et je veux dire, par là, si on m'avait mis dans des conditions favorables,
non mais
j'aurais pu jouer à un plus haut niveau.
C'est là où les digues ont explosé aussi, comme le disait Christophe. Avant, on disait, tu ne peux pas faire un tour à 20 ans. Tu ne peux pas faire ça.
Voilà.
Aujourd'hui,
tu ne peux pas être champion de Formule 1 à 19 ans comme Kimi Antonelli.
Voilà,
Et regarde, Alcaraz a été le plus jeune numéro 1 mondial, il avait 19 ans. Mais ce qui est très intéressant,
est-ce que tu peux continuer? Tu as
les exemples différents.
Quand tu as commencé si jeune, que tu as sacrifié quelque part ta jeunesse, ton adolescence, ou une partie de ta jeunesse, tu as trouvé d'autres.
Mais Mbappé, il a pas eu d'adolescence
ailleurs. Mais est-ce que tu peux, quand tu commences comme ça, t'es performant à 17-18 ans, est-ce que tu peux continuer jusqu'à 36 ans?
Regarde, Djokovic, il a gagné son premier Grand Chelem à 20 ans. Il a 38, il continue.
Ça dépend effectivement de ta capacité physique et de ton hygiène de vie, parce que c'est ton hygiène de vie qui te fera durer plus longtemps. Mais moi, je voulais dire que la précocité, c'est une chose, mais il y a aussi des records de longévité. Puis il y en a qui arrivent sur le tard. Regarde, Valverde, il est champion du monde. J'ai été regarder, il avait 38 ans en 2018 cyclisme. En cyclisme. Donc en fait, il y a des maturités.
Non, mais il y a des cas à part.
Mais il y a des cas à part de précocité, comme il y a des cas à part de gens qui vont se
retrouver très jeunes.
Mais il y a 38 ans, bien sûr.
Pierre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, un jeune n'a plus peur de performer très tôt. Donc avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui,
oui, mais parce qu'il y avait des règles, il y avait des codes, même si c'est des codes qui ne sont pas écrits.
Mais un joueur âgé se dit aussi aujourd'hui, je peux continuer à performer plus tard.
Regardez Pierre
qui en allait sur WhatsApp, me dit, vous parlez d'âge en général pour les jeunes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sport a changé. Ce n'est plus plus haut, plus vite, plus fort. C'est plus tôt, plus tard, plus fort. Effectivement, LeBron James, tu en parles, Marion. Hier soir, LeBron James, par exemple, il a 41 ans, il est en play-off NBA avec les Lakers. Il fait un match stratosphérique. C'est lui qui permet aux Lakers d'aller chercher la prolongation.
Ouais. C'est l'exceptionnel.
Qu'est-ce qui vous impressionne?
Le problème, c'est que tu as combien de LeBron James?
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus?
Oui, mais comment t'en as combien de Paul Sexa?
C'est pas beaucoup.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Les jeunes qui performent plus tôt ou les sportifs âgés?
Les deux.
Joko
l'année dernière en demi-finale contre Sinner, c'est hallucinant à son âge. C'est hallucinant. Moi, c'est vrai que.
Je suis complètement d'accord.
Côté comme de l'autre, moi je suis bluffé par.
Chez les jeunes, c'est cette précocité, cette maturité qui te frappe et la longévité. Tu dis, mais quel amour ils ont pour leur sport, pour continuer longtemps à s'imposer une vie et une dose de travail pour durer aussi longtemps.
Et puis ils ont des qualités physiques aussi exceptionnelles donc parce qu'il n'y a pas seulement la durée.
Oui, c'est physiologique.
Lindsay Vonn allait affronter une piste hyper dangereuse au risque de perdre la vie, mais elle était tellement motivée.
C'est vrai que ce qu'a fait Lindsay Vonn, c'est exceptionnel.
Ce qui en rappelle à 41 ans, faire la course olympique. Juste, tiens, avant de donner la parole.
Elle était numéro 1. Elle était première avec le dossard avant, effectivement, sa chute à la course olympique. Sur les manches mondiales qu'elle avait skié auparavant, on l'a eu d'ailleurs, on l'a interviewé ensemble, Georges, elle gagnait des courses. Elle n'était pas là juste pour faire la figuration, c'est ça qui est monstrueux.
Elle a interviewé, elle disait une seconde.
Ah oui, mais attends, on est là, Bartolitaine, qu'est-ce que tu crois? Avant de prendre Jérémy au 32-16 sur ce débat, tiens, je voudrais juste savoir, est-ce que dans votre carrière, vous, est-ce que vous aviez des schémas préétablis? C'est-à-dire que vous vous disiez, je ne sais pas, après un certain âge, je ne pourrais plus performer. Est-ce que vous étiez fixé un cap fin de carrière?
Le plus terrible, c'est que quand tu passes les 30 ans, on te dit que tu es vieux.
Non, mais toi, à l'époque, on te disait ça.
Mais tout le monde,
aujourd'hui, c'est moins le cas.
Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais
aujourd'hui, on ne sait
plus
que
du tout.
Sarah et Marion, est-ce que vous vous disiez, passé un certain âge, je ne pourrais plus y arriver? Est-ce que vous vous rappelez d'une date butoir?
C'est pas de pas y arriver, c'est de se dire qu'on est trop vieux, quoi.
Marion.
Alors pour nous, dans le tennis, effectivement, passer 30 ans, ça devenait très, très compliqué. Et moi, surtout, je laisserai Sarah, bien évidemment, répondre à cette question. Ce qui était pour nous une très grande difficulté, c'était la maternité.
Exactement.
C'est-à-dire qu'auparavant, lorsqu'on avait un désir de maternité, c'était plus possible de revenir. Et on n'avait déjà aucun exemple de joueuse qui en a été en capacité de revenir. Et donc, on se disait, à un moment donné, passer 30 ans, si j'ai envie de devenir maman, ça va être très, très dur pour moi de continuer à jouer au tennis. Et en plus, effectivement, de fait que toute cette régénération, récupération, nutrition, etc., était moins développée qu'aujourd'hui. On avait quand même des blessures, notamment de répétition d'efforts, qui devenaient difficiles à gérer passé un certain âge. Et là, il y a des progrès colossaux aujourd'hui. Belinda Bencic, elle revient, elle est top 10 mondiale avec elle voyage avec son enfant. Tatiana Maria, elle est top 50, elle voyage avec ses deux enfants. Serena Williams, ça fait des finales de Grand Chelem en revenant après sa grossesse. Victoria Azarenka, enfin, je vous
pose. Oui, bien sûr, 4, la liste 5, aujourd'hui 6, est hyper longue.
Et ça, c'était pas du tout.
C'est ton plus grand.
Ah, c'est mon plus grand regret, c'est de se dire que comme j'avais envie de fonder ma famille pas trop tard, en fait, tu dis, j'ai pas le choix, il faut que j'arrête. Et moi, la première qui l'a fait, mais moi, j'avais déjà arrêté.
T'as arrêté quel âge, Sarah?
J'ai arrêté tôt, j'ai arrêté à 26 ans.
Ah oui, parce que tu t'es dit, j'ai un désir de maternité.
Et mon premier exemple a été Kim Clijsters, qui devient maman et qui gagne l'US Open avec sa petite fille qui court sur le terrain. Et tu dis, il y a une deuxième vie. Donc, mais c'est les progrès qui font.
Ça t'a pas fait regretter, ça?
Il y avait de le dire. Jérémy au 32-16 nous appelle des Hauts-de-Seine. Salut Jérémy.
Bonjour à tous et à toutes.
Bon, on parle plus d'âge dans le sport, comme dit Mbappé et Sexas, comme disent les deux.
Exactement. Moi, je partirais plus sur la maturité physique et et aussi mental. Pour moi, c'est la clé. Et là-dessus, obligatoirement, on n'est pas tous égaux. Et donc, du coup, si quelqu'un est mature à 19 ans dans sa tête et dans ses jambes, je vois pas pourquoi on le laisserait pas, entre guillemets, s'exprimer. La seule limite pour moi, on l'a vu avec Laurent Paganelli, il le répète souvent, c'est que plus on commence tôt, plus la carrière va être court, dans le sens où on durera pas sur la longueur. Mmh. Alors que quelqu'un qui a peut-être explosé, eu son boom vers les 20-25 ans, pourra se permettre d'aller un peu plus loin, sera moins psychologiquement contraint à rester au niveau. Donc pour moi, c'est là la limite, effectivement.
Mais est-ce qu'on est sûr de ça,
Cristiano
Ronaldo a commencé très jeune, et il a continué encore.
Mais Novak Djokovic remporte son premier tournoi du Grand Chelem, il a pile 20 ans.
Non mais c'est surtout, Jérémy, on ne sait pas ce que vont devenir les Mbappé, les Yamal, les Alcaraz. Peut-être que, en fait, justement, nos schémas vont changer et que ces garçons-là sont capables d'aller jusqu'à 40 ans. Non, qu'est-ce qu'on pense?
C'est possible.
Oui, effectivement, mais vous l'avez dit, il y a trois professionnels de ce style-là ou quatre par sport tous les 20-30 ans, mais c'est pas le commun des mortels d'avoir ce genre de carrière. C'est des gens qui sont hors normes.
C'est ce qu'on disait en ouverture. Oui. C'est que ces gens-là sont
exceptionnels.
Sont dans la hors norme, dans le hors norme. Ils sont déjà exceptionnels. Mmh. Mais ceux qui vont durer jusqu'à plus de 40 ans en commençant très jeunes, eux aussi sont dans le cas exceptionnel.
Tiens, avant de boucler ce débat, Simon sur WhatsApp me dit salut les GG, personne n'évoque vraiment le souci physique quand tu démarres très jeune. Regardez, Yamal est souvent blessé, Mbappé ça commence, Wemby a eu des fragilités, Pedri aussi, le joueur de foot. Est-ce que le corps est physiquement prêt à encaisser si jeune les efforts d'un athlète comme cela?
Mais aujourd'hui, les préparations sont différentes.
Ça dépend de la personnalité.
Par rapport à ceux que produisaient les sportifs d'il y a 20 ou 30 ans.
Oui, mais la préparation n'était pas la même aussi, Chris.
Non, mais t'as des joueurs.
La surveillance n'était pas la même.
Non, mais t'en fais beaucoup plus. Et d'ailleurs, je me posais la question, par exemple, pour Loïs Boisson, qui a explosé l'année dernière. 22 ans, elle arrive très haut à Roland-Garros, mais elle se blesse régulièrement. Est-ce que Marion, Sarah, ses blessures peuvent être justement à mettre sur le dos de sa jeunesse et de vouloir en avoir fait trop demander.
C'est manque de chance.
Non, c'est ou un manque de chance ou physiologiquement. Son corps n'est pas encore prêt à assumer tout ce genre de dose.
Regarde, Tamara Gracheva vient de
rupture des ligaments croisés.
Exactement, à la fin de sa saison, rupture des ligaments croisés, elle l'a eu plus tard dans sa carrière, mais c'est la malchance, c'est pas dû au fait
qu'il n'y a pas de règles.
Faut-il arrêter de parler d'âge pour réussir dans le sport? Vous dites oui à 76% sur le compte XD.
J'ai pas gagné un point,
on a gagné
1%.
T'as gagné
un petit point.
Perdu un point.
Ah, moi j'ai gagné alors. On a perdu un point.
Non, on a gagné.
Non,
un
j'ai
point.
Gagné. C'est pas grave.
76, on a gagné un point.
On est parti à 75.
Ne nous battons pas sur l'arithmétique, c'est vraiment pas très important. Allez, à tout de suite. On va parler des mots forts de Pierre Page hier après le match nul de Lens à Brest. À tout de suite sur AMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport. Tiens, on a beaucoup de messages sur WhatsApp, hein, 06 12 424 424, après notre débat sur l'âge. Les trams qui nous dit bravo pour ce débat. Pour les jeunes précoces, je pense que nous devons aussi saluer le travail des fédés. Comme dit Sarah, c'est l'évolution normale que les générations suivantes soient meilleures que les précédentes, puisqu'elles bénéficient de l'expérience de celles d'avant. Je suis donc plus impressionné par les anciens qui durent longtemps. Et Johan qui me dit, il n'y a plus d'âge pour performer. Regardez ces cieux. C'est vrai. C'est vrai, toujours aussi performant. Après voilà,
kitesurf, je suis moyen à performance.
Il carbure au soda après, hein. C'est ça la recette de son succès à ne pas faire chez vous, évidemment. Dans un instant, j'y crois pas. On va parler d'un joueur que Christophe aime beaucoup, Lamine Yamal. Il le prononce bien, comme Gaël Monfils. On va parler du logo de l'OM.
C'est le héros de ma fille.
C'est une donnée intéressante.
Comment il s'appelle
pour les adolescents.
C'est vrai.
C'est un truc incroyable. Elle veut son maillot, elle s'intéresse aux résultats du Barça et aux résultats de l'équipe d'Espagne.
Comment il s'appelle?
Elle s'est jamais intéressée au foot jusqu'à maintenant.
Elle a quel âge?
Elle a 16 ans.
C'est incroyable.
Comment il s'appelle, ce joueur?
Lamine Yamal. Voilà. Mais non, mais je l'ai bien dit, non? Lamine Yamal. Comment il s'appelle, Ben?
Arrêtez, s'il vous plaît, on n'est pas là juste pour le journal moyen du Moscato Show, on est dans les grandes gueules du sport. Allez, la course au titre a pris un sérieux coup en Ligue 1. Le PSG a l'occasion d'avoir 6 points d'avance sur son dauphin Lens en cas de succès à Angers à 19h. Ce sera à vivre sur RMC. Les 100 et or ont été accrochés hier soir en ouverture de la 31e journée à Brest. 3-3. Les Lens ont été menés 3-0. Pierre Sage avait fait tourner après la qualif en finale de la Coupe de France cette semaine. Au coup de sifflet final, il en voulait aux joueurs choisis pour débuter la rencontre et il l'a dit à chaud au micro du diffuseur.
RMC, La punchline GG.
J'avoue que j'ai eu des mots très durs à la mi-temps. Je me suis senti un peu trahi. Un mot qui est très fort, mais je donne. J'ai donné du temps de jeu, j'ai voulu apporter de la fraîcheur. Je vous avoue que j'ai pas eu un retour que j'attendais. Habituellement, je parle souvent du staff en disant nous, et là, je parle vraiment de moi et du fait que j'ai pris la décision de faire des rotations. Et c'était une erreur ce soir.
Alors ça, c'était en conférence de presse. Quelques minutes auparavant, il était au micro diffuseur et assez longuement, il est revenu là-dessus quand même. On a senti la colère de Pierre Sage. Je me suis senti un peu trahi. Donc voilà ce qu'il dit à propos de ses titulaires hier. Je précise parce que c'est important. Il a effectué 4 changements à la 52e minute. Sotoka, Aguilar, Massouakou, Saïd ont laissé leur place à Tovin, Edouard, Saint-Maximin et Abdoulhamid qui ont été décisifs dans la remontée lensoise pour accrocher le nul et presque gagner. Les GG, l'entraîneur de Lens prend-il un risque avec cette communication assez offensive sur les joueurs qui ont commencé hier, très offensive même, pour la fin de saison? Est-ce qu'il prend un risque? Oui ou non d'abord, Christophe?
Non, je pense pas.
Marion?
Non.
Denis?
Non.
Sarah?
Je pense que oui.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Je précise qu'il reste à Lens 4 matchs à jouer en Ligue 1 et une finale de la Coupe de France. Sarah, pourquoi tu penses que oui?
Pourquoi je pense que oui? Parce qu'en fait, il a pointé de manière très claire 4 joueurs.
On le comprend en tout cas.
Ah bah on le comprend.
Il les cite pas nommément, mais on le comprend.
C'est clair comme de l'eau de source. Et je pense que c'est peut-être un discours qui est à tenir dans les vestiaires. Il l'a forcément tenu dans les vestiaires. Je pense pas qu'il l'ait tenu uniquement de manière publique dans les différentes conférences de presse d'après match. Et que à ce moment crucial de la saison pour Lens, c'est-à-dire que même si idéalement, on pense toujours qu'il y a une course à la première place, mais voilà, le PSG est au-dessus. Mais il y a quand même cette finale de Coupe de France. Il y a quand même cette finale de Coupe de France.
Tu auras tout le monde.
Oui, et il faut mobiliser. On sait que tu gagnes pas un titre qu'avec les 11 joueurs sur la pelouse. Tu gagnes aussi des titres par toute une équipe. Donc je pense que ça crée quand même un petit malaise en public. Et pour preuve, je pense que le discours qui a déjà peut-être été tenu dans les vestiaires avant, parce que quand Tovin s'exprime avant Pierre Sage, on sent quand même qu'il y a un petit malaise.
Ah, on sent qu'il y a eu une tension dans les vestiaires.
Il y a une tension dans les vestiaires. Donc tu te dis, mais pourquoi elle reste pas dans les vestiaires? Et puis pour reprendre le scénario
hier, du
match.
Hier, les émotions est effectivement à fleur de peau après
exactement.
Le match.
Exactement. Hein. Mais quand tu reprends le scénario du match, ouais, enfin bon, il y a 3 tirs cadrés de Brest, ils vont les 3 au fond. Ça arrive même au meilleur, ce
oui,
genre
mais
de choses.
Oui, mais c'était dans une période, Sarah, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que dans une période où un jeu est incroyable, tu n'as pas le droit de perdre, tu n'as pas le droit de faire
oui,
match nul à Brest.
Oui, mais il est obligé de faire tourner. Ils ont joué une demi-finale
non,
il y a trois jours.
Avant.
Il y a 3 jours. Donc, en fait, tu te dis, mais est-ce que ça démobilise pas? Pardon,
moi,
bêtement.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis un peu surpris que vous disiez presque
non. Mais moi, je dis non.
Mais ils s'en sortent remarquablement
bien. J'ai dit non parce que le problème, c'est que ça, il avoue qu'il s'est trompé.
Mais que tu t'avoues qu'il s'est trompé,
non,
c'est une chose.
Il avoue s'être trompé dans la gestion de son effectif.
Ah oui, mais il dit j'ai été trahi quand même. Les mots,
non,
les
mots. Trahi, c'est ça dont on parle. C'est pas le fait qu'il se soit
trompé. Moi, ça me déplaît pas que le mec soit authentique. Tu sens que ce mec, il est.
Ah oui, mais
c'est pas le débat.
Oui, si, parce que
est-ce qu'il prend un risque?
Non, il prend pas de risque. Il prend pas de risque parce que justement, c'est un gars
zéro risque.
Est-ce qu'il met pas un grain de sable dans une machine qui tourne remarquablement bien depuis le début de la saison?
Il a voulu bouger son collectif, bouger ses joueurs, et il le fait à l'antenne. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus, comment dire, exercice à droit de le faire à l'antenne pendant après un match à chaud surtout.
Et du coup, c'est un risque.
Mais au moins, il l'a fait avec ses tripes. Il l'a fait parce qu'il le ressentait vraiment. Et j'ai trouvé ça bien, même si c'est dur pour les joueurs. Et crois-moi, ça va s'arranger dans les vestiaires. Ça s'est déjà arrangé à mon avis. Hein.
Moi, le débat, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est est-ce que c'est un risque dans le vestiaire.
Non, aucun
franchement.
Risque.
Est-ce que vous avez entendu Pierre Sage mettre autant son effectif devant le fait accompli depuis le début de la saison?
Jamais. Alors que il a parlé de rupture de pacte.
Il y a exactement. Il y a eu des petits couacs où ils ont été perdre à Lille alors qu'ils menaient. Enfin, il y a eu Monaco où ils menaient 2-0, ils finissent par perdre. Il y a eu des petits couacs dans la saison. Pour autant, on n'a jamais entendu Pierre Sage remettre en doute ou remettre en question
la pression.
Son
la pression de la fin de saison. Il est qualifié pour la finale de la Coupe. Il espérait peut-être hier soir revenir très proche du Paris Saint-Germain. Oui. Il est déçu, il met un coup de pression. Oui. Mais tant que le vestiaire est derrière lui.
Ça n'a pas été fracturé.
Je ne sais pas. Il n'y a pas de rumeurs qui nous disent que ça va mal à Lens en ce moment. Je veux dire, tout le monde, toute l'équipe.
Toi, tu sais comment le vestiaire a reçu ce qu'a dit Sagir.
Mais regarde comment cette équipe joue. Regarde la simplicité. Regarde l'émotion après les qualifications pour des trucs. Donc, je veux
bien. Ils sont
peut-être qu'ils s'insultent, si tu le préfères, dans les vestiaires tous les soirs. Mais ça ne donne pas l'impression.
Mais Christophe, ils ont planté leur première mi-temps hier.
Personnellement, voilà, c'est mon intime conviction que tout va bien dans ce club et que dans des moments comme ça, justement, un entraîneur, quand il ressent peut-être un manque de motivation de certains, eh bien, est aussi dans la capacité de taper du poing sur la table. Mais je sais qu'aujourd'hui, il ne faut plus jamais gronder personne.
Mais je pense que c'est pas un risque de management.
Marion, zéro risque pour toi aussi?
Alors, j'aimerais revenir sur plusieurs faits. Le premier, c'est qu'effectivement, dans le derby du Nord, ça fait 3-0 pour Lille, celui qui s'est déroulé au mois d'avril, alors que sur le match aller, donc, qui était le 20 septembre, ça faisait 3-0 pour Lens. Là, il est parti avec le 11 de base. Il a rien dit, Pierre Sage n'a rien dit après ce match, parce que, encore une fois, là, ce qu'il regarde et ce qu'il évoque dans sa déclaration, c'est le manque d'effort. Et là-dessus, pour moi, encore une fois, sur une course au titre où on sait très bien que sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, il y a eu que 2 victoires pour Lens, il sait que ce match à Brest, il y a une micro-chance éventuellement d'aller chercher le PSG, parce que le PSG peut, avec le match aller-retour de Ligue des Champions contre le Bayern, peut-être se dire que finalement ils peuvent laisser des plumes sur la fin du championnat. Enfin, en tout cas, on ne sait jamais. En tout cas, essayer de mettre un tout petit peu de pression sur le PSG. Il faut absolument gagner à Brest. Et de voir les joueurs à qui il fait confiance sur un turnover, où oui, on peut se dire que peut-être il n'aurait pas dû le faire, mais bon, ça c'est toujours facile de le dire après qu'il n'aurait pas dû le faire. Là, en tout cas, il prend la décision de le faire. Il prend la décision de faire confiance à ces joueurs-là. Il est déçu par leur attitude. Et ça, tu peux pas empêcher un entraîneur d'être déçu par leur attitude et de le dire.
On est tous d'accord, il n'y a pas de sujet là-dessus, Marion. Est-ce qu'il a bien fait de le faire?
S'il veut remobiliser les joueurs qui jouent moins, parce que là on parle de joueurs qui jouent moins, on ne parle pas du 11 de base qui a fait quasiment 90% de la saison et qui a amené Lens où ils en sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans la capacité peut-être d'amener un titre historique pour ce club qui n'a jamais remporté la Coupe
de
France.
Il devait faire quelque chose, c'est ce que tu veux dire.
Voilà. On est là, encore une fois, on est un club pour Lens. C'est un club qui a 120 ans d'histoire, qui a fini que 5 fois deuxième de Ligue 1. Donc déjà, on est dans une saison historique. On sera encore plus dans une saison historique s'ils arrivent à remporter la Coupe de France.
Grégoire,
qui tape du poing sur la table en leur disant c'est pas acceptable de me produire la première mi-temps. Moi, je suis désolé, ça me dérange pas.
Grégoire nous appelle spontanément au 32-16. Tu nous appelles du Nord. Salut Grégoire, supporter lensois.
Bonjour les grandes gueules, comment ça va?
Bah écoute, ça va, et toi? Il a raison ton coach hier là de venir énerver avec des mots forts après la rencontre. Il a pris un risque ou pas?
Alors, il a eu raison. Je vais juste revenir sur un point avant de parler de ça, si vous voulez bien. C'est que moi je trouve ça scandaleux, et on est dans les grandes gueules, hein, je pense qu'on peut tous dire. Moi j'ai un vrai coup de gueule à passer, c'est sur cette programmation du match de vendredi.
Ah bah je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
C'est la base de tout. Ouais. Voilà.
Vous jouez mardi, je rappelle pour nos auditeurs, vous avez joué mardi en Coupe de France face à Toulouse. Et Lens se retrouve à jouer vendredi soir. Et Pierre Sage ne comprenait pas avant le match.
Et Lens n'a pas pu jouer son match face au PSG qui sera joué le 13 mai. Cette programmation, c'est la fin de la saison.
Pour être tout à fait honnête avec toi, Grégoire, on se posait la question, si on n'allait pas faire un débat, est-ce que le calendrier a pas plombé la course au titre? On t'écoute, Grégoire.
Et expliquez-moi pourquoi Strasbourg et Nice jouent dimanche et nous, on doit jouer vendredi. Ils ont un jour de repos de plus, alors qu'ils ont joué mercredi. Je sais pas, j'ai l'impression, alors je veux pas faire jouer la victime, mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose contre nous. Sur ce report du Lens PSG, problème de fumigène à Lens-Toulouse, là on parle d'un huis clos à venir contre le Paris Saint-Germain à Bollard. Franchement, j'ai l'impression qu'on...
Bon, t'es en colère là-dessus. Et sur les mots de ton coach hier soir?
Alors, sur les mots du coach, moi je le comprends. Je le comprends parce que dans une fin de saison intense comme ça, on a besoin de compter sur tout le monde. Et là, en première mi-temps, il n'a pas pu compter sur tout le monde, malheureusement.
Moi,
je suis un défenseur de Florence Otoka. Il a fait des choses extraordinaires au club. Mais là, aujourd'hui, hier, il a été transparent. Il n'a pas apporté sa pierre à l'édifice. Wesley Saïd, c'était très compliqué également. Et en fait, dans une période comme ça, Pierre Sage a besoin de compter sur tout le monde. Il n'a pas pu le faire. Et là, on arrive dans un moment charnière de la saison. Il a raison de passer ce coup de gueule. On n'est pas
Mais qu'il ait raison de passer ce coup de gueule, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le fait de le faire en public et d'utiliser le terme de trahison plutôt que de déception ou de ne pas être à la hauteur. Est-ce que ça, c'est pas la petite fracture qui n'a peut-être pas lieu d'être à ce moment-là?
Parce qu'il n'a pas nommé les joueurs, mais il a presque fait.
Enfin, on le comprend.
Moi, je pense qu'il a le soutien de son vestiaire depuis le début de la saison. Et moi, je pense que pour aller chercher le grand, il faut se dire les choses. Donc, je pense que voilà, il l'a dit devant les médias, c'est sûr. Mais il l'a également dit dans le vestiaire. Donc,
non, mais
moi,
ça ne
me pose pas de problème.
Il avait preuve d'autorité. Je pense qu'un coach, à un moment donné, il doit sentir le bon moment.
Il doit faire preuve d'autorité.
Il doit sentir le bon moment. Moi, je pense que c'était le bon moment.
Merci Grégoire de nous avoir appelé au 32-16. Paris a l'occasion d'avoir 6 points d'avance ce soir en tête de la Ligue 1 en cas de succès à Angers. C'est à 19h le match. Paris qui va faire tourner un petit peu avant la rencontre face au Bayern mardi en Ligue des Champions. Je rappelle les matchs de la journée. OL Auxerre à 15h. C'est important pour le podium et pour le maintien. Et Toulouse-Monaco à 21h05. Toutes les matchs de la journée à suivre évidemment sur RMC en direct. On revient dans un instant avec le j'y crois pas dans les grandes gueules du sport. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Tiens, dans un instant, dans le vestiaire des grandes gueules du sport, on va parler de vous, les sportifs de haut niveau, quand l'ego est touché par le manque de reconnaissance. Rudy Gobert en NBA a été très agacé de ne pas être nommé parmi les meilleurs défenseurs de l'année. Il a dit, vous allez voir, l'histoire me donnera raison. Il a été performant d'hier, ça a été un carburant pour lui. J'aimerais bien savoir un peu vous, là, comment ça s'est passé dans votre carrière quand un Christophe Cessieux, comme ça, vous critiquez, par exemple, Mario Bartoli, à Sarah Pitkowski, à Denis Charvet pendant leur carrière. Est-ce qu'après vous mettiez les phrases de Christophe comme ça sur votre mur? On va lui montrer qu'il avait tort. Allez, tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas,
les GG. Sous la pression populaire, le logo de l'OM va changer. J'y crois pas, Christophe.
Je n'y crois pas, non.
Marion?
Ah, j'y crois. Même le maire de Marseille s'est exprimé. Ah oui, c'est une honte. Je ne sais pas quelle agence de pub a pondu ça, mais là, c'est pas possible.
Denis, ah, j'y crois, oui. Tiens, le maire de Marseille, Benoît Payan, on va l'écouter, il était sur BFM Marseille, ça l'a fait réagir. On l'écoute. Ça arrive, le maire de Marseille, Benoît Payan, sur BFM Marseille.
Voilà, je pense que j'en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. Et donc, c'est une erreur, voilà, on fait une erreur. Je pense qu'il faut la réparer et je pense qu'il ne correspond pas tout à fait à l'Olympique de Marseille. Certains me disent, on va s'y habituer. Oui, on s'habitue à tout, mais moi, il me plaît pas.
Voilà, bon, il a comparé le logo au logo d'une célèbre marque de voiture. Non, mais c'est important, les logos.
Mais bien sûr que c'est important.
Oui, Marion?
Évidemment. Non, mais bien sûr que c'est important. Non, mais franchement, j'aurais écrit sur ChatGPT un prompt, crée-moi un logo qui ressemble à une marque de voiture qui est trailée, ça m'aurait sorti ça m'aurait pris 30 secondes. Tu peux pas faire ça, je suis désolée, excuse-moi, c'est pas possible, pas sur un club aussi historique. C'est une horreur, ce logo, je l'ai en horreur, je veux plus le voir.
La Juve, elle est énervée, Marion.
Comme ça, tu peux le mettre sur ta Volkswagen, tu l'inverses et tout.
Mercedes et Renault et Audi.
Voilà.
Non, mais Denis, ça compte les logos.
Mais moi, quand j'ai vu le logo, j'étais scandalisé. Ouais. Je trouvais ça
mais il faut le changer là quand il y a ce qu'il faut céder.
Je suis
parce que ça c'est des millions qui sont parfois
mais
c'est de l'argent
exactement c'est ça des fois c'est sûr logo.
C'est certain ça coûtait des millions. Au-delà, parce que les goûts et les couleurs, évidemment, c'est très personnel. Mais ce qu'il faut aussi s'y comprendre, c'est que les logos d'un club de foot, c'est émotionnel. Ça doit procurer d'émotions. Je me souviens quand le Qatar est arrivé au Paris Saint-Germain et qu'ils ont enlevé, ils ont baissé le Saint-Germain, ils ont grossi la Tour Eiffel. Ça a crispé les gens parce qu'en fait, il faut se reconnaître dans un logo.
T'imagines Christophe, si on enlève l'aiglon sur le logo.
Aujourd'hui, c'est quand même vraiment la mode dans tous les clubs. Dans tous les clubs, on fait des maillots dont les couleurs n'ont rien à voir avec les couleurs traditionnelles des clubs.
C'est pour en vendre plus. Parce que si tu mets toujours le bleu clair.
Mais quand tu changes un logo, c'est aussi sans doute pour vendre plus.
Vous savez ce qui inspire les franchises et les clubs de sport. C'est le logo des New York Yankees, qui est une marque. Et aujourd'hui, la casquette des New York Yankees en baseball.
Tout le monde
veut essayer de faire son logo des New York Yankees.
Oui, mais il n'a pas changé son logo.
Non, il n'a pas changé.
Oui, mais c'est celui de l'OM. Il était parfait. Il était parfait, celui de l'OM.
Et je trouve que le timing, c'est terrible. C'est-à-dire que.
Une galère en plus.
En plus de ça, Marseille, il y a une fracture terrible. Et tu essaies de faire un coup marketing, tu divises encore plus. Et là, tu dis, mais au lieu de rassembler, tu fractures encore plus. Donc en plus, le timing, tu dis, mais mon Dieu.
Il est horrible, le timing.
Il est terrible. Voilà, c'est vrai. Terrible. C'est-à-dire que s'il avait pu passer, pas inaperçu, mais en tout cas être amené autour de quelque chose de positif.
Si t'es leader de Ligue 1 avec 3, avec 10 points d'avance sur le PSG,
oui, ça peut pas plus passer.
Enfin, tu vois,
pas si mal.
Il fait rire.
C'est le logo du titre. C'est le logo du titre.
Il fait rire, mais là, en fait, le timing est tellement, pourri, que ça ne va pas dans le sens de l'innovation qu'ils ont voulu faire, qui est peut-être un petit peu.
Tiens, tu viens d'utiliser le mot pourri. J'y crois pas. La blessure de Yamal va pourrir la Coupe du Monde de l'Espagne. Est-ce que vous y croyez ou pas?
Non.
Non.
Non? Non.
Moi, si c'était le cas, ça me gênerait pas.
Marion.
Oh non.
Ah si, moi je suis comme
moi,
ça.
Je suis déçue. Moi je suis déçue pour Yamal parce que je l'adore.
Est-ce que vous avez remarqué?
C'est de la France.
Cocorico.
Ouais. Ah ouais, moi c'est pro Cocorico.
Est-ce que vous avez remarqué que Sarah, quand elle a un petit moment un peu mauvais comme ça, elle a son accent ch'ti qui revient. Oh, ouais. Ça me gênerait pas, tiens. J'adore. La star du Barça.
J'ai écrasé les moules sur la tête, celui-là.
Ah ben ça, c'est inattendu, ça. Beaucoup de respect pour nos amis du Nord. La star du Barça s'est blessée, je vous rappelle, sur penalty obtenu et transformé face au Celta. Il est touché au biceps fémoral gauche. Il ne rejoint pas en Liga cette saison. Sa participation au Mondial en 47 jours, elle n'est pas remise en cause pour l'instant. Tiens, réaction de son entraîneur Hansi Flick hier en conférence de presse.
Oui.
La situation n'est pas facile, ni pour nous, ni pour lui. Nous devons faire face. Lui aussi doit faire face. Il doit apprendre à gérer ça. Je pense qu'il est très concentré maintenant. C'est sa première blessure, une blessure musculaire. Et ce que je ressens, c'est qu'il est vraiment concentré. Il a aussi de la motivation. Il est absent pour nous, mais je pense que pour la Coupe du Monde, il sera là. Il sera plus fort. Il reviendra plus fort qu'il ne l'est actuellement.
But I think for the World Cup he will be there and he will be stronger, come back stronger than now.
Moi je pense Denis. Comme lui. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Il va pouvoir se reposer, il va refaire de la fraîcheur. Il va arriver plein badingue.
Imaginons, enfin souvenez-vous, en fait, pourquoi on pose la question, les amis?
Se ressourcer.
Souvenez-vous, le feuilleton, oui. Zidane, est-ce qu'il va revenir à temps? Souvenez-vous, Patrick Vieira également. C'est des blessures, oui, Christophe, parfois, qui pourrissent l'environnement.
Mais c'est pas le même âge.
Mais attendez, mais question d'âge ou pas? L'environnement médiatique.
Ah bah,
l'environnement
tu récupères quand même plus vite quand t'es plus jeune.
Mais moi, je sais pas la nature exacte de la blessure de la Miniamane. Hein. Si vous la connaissez, je viens d'en voir dans votre cabinet médical, les amis. Hein.
Mais, non, mais de toute façon, une déchirure musculaire,
c'est 2 mois, ça va aller.
Mais déchirure musculaire, on sait très bien que c'est entre une semaine à 10 jours par centimètre. Donc voilà, même si c'est fait 3 cm déchirure, ça fait 30 jours, ça sera largement là pour
le mondial.
Je pense qu'il que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va lui permettre.
Tu m'as écouté.
Tu me te reposes. Déjà, j'en parlais tout à l'heure pour Mbappé, mais.
Vous savez quoi? Je crois que les deux, là, ils arrivent.
Non, mais. Alors, moi, les amis, je sais pas ce que vous en pensez.
Ils sont en face l'un de l'autre, mais j'ai des doutes.
C'est important de recadrer le débat. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, après avoir bien étudié le sujet, je trouve que c'est un mal pour un bien, parce que ça va lui permettre un peu de faire du frais et de revenir en forme. Voilà. Il va arriver plein badin pour la Coupe du Monde.
Et je crois qu'on l'a pas dit. Donc, c'était important.
Christophe, à la pause, on va s'occuper de Georges, non?
Mais il est terrible.
Non, tous les deux, la vérité. J'ai abandonné, moi.
Il t'a viré, il continue à te taper dessus.
Tiens, juste les amis, rapidement, j'y crois pas. Mon fils arrivera à passer un tour à Roland-Garros pour sa dernière. Oui ou pas?
Bah,
oui
ça
ou non
dépend du tirage. Ah, mais
le tirage,
oui,
le tirage.
C'est le principe du tennis.
Bah, quand même, oui.
Voilà, mais tirage. Sinon, vous y croyez?
Bah, oui. J'y crois pas une seconde.
Bah, oui.
T'y crois pas une seconde?
Oh, mais Denis, arrête.
Je suis comme toi, Denis.
Oui, c'est pas possible.
J'y crois pas une seconde.
Pas une seconde.
Pas une seconde.
Mais arrêtez les deux, ma pète chaud, là.
Les deux grincheux.
Et je pense même que c'est un mal pour un bien. Parce qu'il va nous faire un super spectacle.
Alors, je vais te dire, Georges, c'est un mal pour un bien.
Je suis fatigué. Vous voyez, c'est voilà. Quand on commence jeune comme ça, on finit pas très vieux derrière parce qu'on devient fatigué avec les gens qu'on a autour de la table. Allez, les grandes gueules du sport, on revient dans un instant. Vous êtes bons, j'en suis. Le vestiaire. Tiens, on va parler quand l'ego est touché, justement, Christophe.
Jamais.
Et par le manque de reconnaissance.
Jamais touché. Ça peut être une défaite.
Est-ce que c'est un carburant ou pas? Et puis on va parler aussi Paul Sexas. Paul Sexas, J-1 avant Liège-Bastogne-Liège et d'affronter Pogacar et Remco Evenepoel. Est-ce que là, c'est évident désormais pour sa participation au Tour de France après tout ce qu'il a montré et avant d'affronter les monstres demain? À tout de suite avec vous, 32-16 sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.